Bonjour à tous. Ce matin, donc, je ne vais pas prêcher sur les psaumes, puisque vous savez qu'on a notre normalement chaque dimanche on étudie un psaume pour cette année, mais vous savez aussi que chaque mois on a une étude biblique dans cette église sur un thème plus théologique. Et donc nous avons eu cette étude il y a une quinzaine de jours ici, et cette étude était donc sur le thème de la Trinité, et on a étudié plus spécifiquement la personne du Père. Et donc suite à cette étude, un des prédicateurs est appelé à apporter une prédication sur le même thème pour faire suite à l'étude. Et donc, ce dimanche, c'est moi qui m'y colle. Donc, nous allons parler un peu ce matin alors on peut parler de dogme, hein, de cette façon de comprendre la personne de Dieu, qui est dont le nom est la Trinité. Ça peut paraître un thème un peu sec ou un peu abstrait, mais c'est important de pouvoir se confronter à ces vérités, à cette façon de voir Dieu, de le comprendre. Et c'est important parce que c'est ce que j'avais partagé en introduction du partage de vendredi. Notre nature nous pousse à voir Dieu à notre image, à projeter sur lui, ce que nous avons envie d'y mettre, et à tordre petit à petit la vision que nous avons de Dieu en fonction de ce que nous sommes nous-mêmes. Alors qu'en fait, la Bible nous explique que c'est le contraire, que c'est nous qui sommes à l'image de Dieu, et que celui qui doit être transformé, c'est nous. C'est nous qui devons, par notre étude de ce que la Bible nous dit de Dieu, c'est nous qui devons nous transformer pour lui ressembler toujours plus. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir étudier ces vérités théologiques, pour que nous puissions nous replacer devant qui est Dieu, qui il est, qui il dit qu'il est, quelle est dans la révélation qu'il nous donne, qu'est-ce qu'il dit de lui-même et comment est-ce qu'il se révèle à nous. Alors pour revenir à ce mot de Trinité, donc c'est un mot qui ne se trouve pas dans la Bible, mais qui a été formulé au deuxième et troisième siècle après Jésus-Christ, donc par des pères de l'Église, Tertullien en particulier, et donc qui a parlé de cette triunité de la personne de Dieu. Alors évidemment c'est une notion qui est profondément biblique, donc il y a énormément de passages donc qui nous parlent de ces trois personnes différentes, le Père, le Fils et l'Esprit, qui les nomment, qui les décrivent, qui décrivent quelles sont leurs caractéristiques, leur personnalité, leur but, leur façon d'interagir avec le monde. Tous ces passages attribuent à ces trois personnes le nom de Dieu, les caractéristiques de Dieu. Et donc il y en a énormément, et je vais pas forcément rentrer dans cette démonstration du fait que Père, Fils et Saint-Esprit sont tous les trois Dieu. Alors on va parler de cette notion d'unité et cette notion du fait qu'ils sont trois personnes différentes. Je lis simplement un des derniers versets de l'évangile de Matthieu, quand Jésus donc Avant d'être élevé au ciel, Jésus parle à ses disciples et il dit, donc Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Donc c'est un des versets où ces trois personnes de Dieu sont associées dans le même verset. Donc effectivement trois personnes distinctes qui partagent la même essence. Quand on essaie de réfléchir à cette notion-là, on se rend assez vite compte qu'on a du mal à la saisir. Et je pense que c'est bien de se rendre compte que effectivement on n'est pas capable de la saisir pleinement. C'est une façon de parler de Dieu qui nous permet de nous approcher de lui, qui nous a été donné pour que nous arrivions à mieux le comprendre, à mieux le connaître. Cette image de la famille, d'accord, Père, Fils, Esprit, qui les lie. Cette façon de parler de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions nous approcher de lui. En même temps, il faut qu'on arrive aussi à prendre conscience du fait que ça reste un moyen de nous approcher de lui, d'avoir une intuition de qui il est, mais ça nous permet pas de l'appréhender pleinement. Et c'est une bonne chose de garder cette humilité dans le cœur, parce que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des occasions où à vouloir pousser trop loin la compréhension de cette comparaison avec une notion très très humaine, hein, cette notion de parentalité, de filiation, de vouloir pousser trop loin cette comparaison, eh bien ça a divisé l'Église. Évidemment, l'exemple le plus marquant, hein, c'est le schisme d'Orient, hein, au Xe siècle, où l'Église d'Occident et l'Église d'Orient, Rome et Byzance, se sont séparés sur la compréhension qu'ils avaient de l'origine de l'Esprit. Est-ce que l'Esprit procède du Père et du Fils, ou bien seulement du Père? L'Église s'est divisée sur ce sujet-là, alors que évidemment, hein, c'est une histoire compliquée, mais on peut clairement se dire que se diviser sur une notion qui est sur la personne même de Dieu, sur la façon dont les trois personnes de la Trinité interagissent, c'est probablement aller trop loin dans notre capacité à le comprendre. Donc, comme je l'ai dit en introduction, nous sommes faits à son image. À cause de ça, c'est intéressant de pouvoir justement comprendre qu'est-ce que cette caractéristique de Dieu d'être à la fois un et à la fois trois. Qu'est-ce que ça nous apprend sur qui nous sommes. Alors effectivement, d'abord Dieu est un. Cette unité de Dieu. Qui est évidemment une vérité éternelle, qui n'a ni commencement ni fin. Cette unité de Dieu dans la diversité nous donne un modèle d'identité. Ça nous donne un modèle des trois dimensions qui font partie de ce que nous sommes, de cette image de cette image de Dieu que nous reflétons. Donc une première dimension qui est une dimension verticale, la relation du Père et du Fils, égaux en valeur, mais dont la caractéristique est que le Père donne, le Père envoie son Fils, le Père manifeste son amour, et le Fils se soumet volontairement à cet envoi du Père. Et cette dimension-là de soumission et de cette capacité à recevoir à recevoir d'autrui et à accepter d'être envoyé. Ça aussi, ça fait partie de une des caractéristiques de notre vie dont nous avons besoin de prendre conscience. Une dimension aussi horizontale. Dieu est fils. Et dans cette filiation, dans cette dimension justement où ce fils va se gagner des frères. Eh bien, nous aussi, donc, nous apprenons à avoir cette relation de communauté. Ce Jésus qui devient notre frère, qui devient notre ami, ce Jésus qui nous sauve et qui nous libère et qui nous met en relation les uns avec les autres. Cette dimension de la relation horizontale avec nos frères et sœurs, cette dimension de la communauté, cette dimension du partage, nous avons besoin aussi de la comprendre et de la vivre. Ensuite, une dimension intérieure, l'esprit que Dieu envoie, qui manifeste sa nature, qui vient habiter jusque dans notre cœur et qui vient transformer notre être intérieur, qui vient transformer notre intelligence, qui vient transformer notre cœur et qui nous conduit à la véritable adoration. Cette dimension de notre spiritualité intérieure, de celle qui nous met en relation avec Dieu et qui transforme notre être intérieur, cette dimension-là est aussi une dimension fondamentale de notre existence, et nous devons aussi entrer dedans. Donc, cette dimension d'unité dont découle notre identité. Ensuite, ces trois personnes qui sont différentes, qui remplissent un rôle, qui remplissent une mission différente. Cette réalité de la personne de Dieu, eh bien, nous donne un modèle de relation. Un modèle de relation parce que les textes nous montrent que le Père envoie le Fils. Et on va lire un passage qui décrit cette réalité. Le Père envoie le Fils et il le glorifie. Le Fils, lui, révèle le Père, conduit à lui, et il le glorifie. L'Esprit manifeste le Fils et le Père, et il les glorifie. Ces trois personnes de la Trinité, ces trois personnes qui partagent la même essence, qui sont un en Dieu, eh bien ces trois personnes mettent l'autre en avant. Elles ne sont pas centrées sur elles-mêmes, mais elles sont en relation et elles manifestent une des caractéristiques fondamentales de Dieu, qui est son amour. À l'intérieur même de la personne de Dieu, l'amour est mis en avant et l'amour est le modèle de la relation. Cette façon d'interagir avec les autres où c'est l'autre qui est mis en avant et l'autre qui est glorifié. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur cette trinité, sur cette façon de comprendre qui est Dieu. Donc pas une notion théologique abstraite avec lesquels les théologiens s'amusent et se disputent, mais une réalité qui transforme notre identité et qui transforme aussi notre relation les uns avec les autres. Cette dimension où je prends conscience que je suis à l'image de Dieu et que je reflète aussi qui il est. Donc maintenant, on peut aborder une des personnes de cette Trinité un peu plus tard. Donc dans l'année, on abordera plus spécifiquement le Fils et l'Esprit, mais aujourd'hui on se concentre un petit peu sur la personne du Père. Et donc je vais vous lire un passage donc dans l'Évangile de Jean, et je vais lire une dizaine de versets, donc au chapitre 5. Je vais lire du verset, donc Jean 5, du verset 16 jusqu'au verset 31, donc un passage qui nous parle de la relation du Père et du Fils. Donc les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Donc là, pour faire suite à ce que nous partageait Paul tout à l'heure. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus répondit à ses reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils aussi donne la vie à qui il veut. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Ne vous en étonnez donc pas. L'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique, et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc ce passage décrit cette relation, et donc comme je l'ai déjà souligné, on voit la volonté du Fils de se soumettre à la volonté de son Père, de s'y soumettre volontairement. Et donc, on voit là une image de la relation qui nous permet de comprendre cette personnalité de Dieu via notre expérience. Nous avons vécu la relation d'un fils ou d'une fille avec son père. C'est quelque chose qui fait partie de notre histoire. Une histoire qui peut être plus ou moins bonne, plus ou moins réussie, une relation plus ou moins apaisée, mais c'est quelque chose qu'on a vécu et donc Dieu se sert de cette expérience que nous avons vécue pour décrire une réalité. On peut remarquer aussi que cette façon de décrire une relation entre un fils et son père, eh bien ça marche aussi dans l'autre sens. Ça nous permet à nous aussi de réfléchir à ce que c'est que d'être parent, et ça éclaire notre façon d'être en relation avec nos enfants. Alors comment est-ce que Dieu décrit cette réalité de la paternité? Qu'est-ce que contient cette image? Alors évidemment il y a beaucoup d'autres passages qui en parlent, et on peut relever plusieurs constantes. D'abord, le père donne l'identité. Le père donne le nom. C'est lui qui fonde l'origine de ce que nous sommes. C'est lui qui fonde notre identité et qui nous sommes. Ensuite, le père donne la vie. Et là, on peut faire un lien avec la mère. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais les parents donnent la vie, ils la donnent d'une façon purement biologique, mais ils la donnent ensuite durant les premiers mois, les premières années de la vie d'un enfant. Ils sont à l'origine de ce qui maintient et qui protège la vie de leurs enfants. Le père donne les limites et il donne la loi. C'est celui qui dit ce qui est bien, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et dans une relation apaisée, eh bien ces limites et cette loi sont acceptées et comprises. Il est celui qui montre, qui éduque, qui envoie, qui corrige, qui redresse. Et ce passage nous dit en particulier que ce que le Fils fait, eh bien, il le fait parce qu'il a vu son Père l'accomplir et il entre dans ses pas. Donc le Père donne cette éducation, ce chemin à parcourir. Et dans ce passage, on voit en particulier que donc à son Fils, il va montrer ce qu'il accomplit, il va déléguer, il va lui donner la responsabilité d'accomplir, il va l'envoyer, lui donner une mission, il va lui donner le pouvoir d'accomplir cette mission, il va lui donner l'autorité pour accomplir cette mission. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est à la fois la notion de sécurité, où le Fils reçoit la protection de son Père et son origine et son autorité, et à la fois le mouvement. C'est une relation qui incite à aller. C'est pas une relation qui incite à rester. Le Père envoie son Fils. Il le met en mouvement, il lui donne un but et un objectif. Il lui donne ce dont il a besoin pour accomplir cet objectif. Il connaît son Fils et il lui donne toutes les ressources dont il a besoin pour accomplir ce que doit être sa vie. Un passage qui je trouve est très marquant, c'est un passage qu'on trouve dans Galates et qui nous parle de cette relation que nous-mêmes nous entretenons avec le Père. Là, on a ce passage fait référence à le passage qu'on vient de lire fait référence à la relation du Père et de Jésus, de son Fils. Alors de son premier-né, hein, puisque c'est comme ça que le texte en parle, premier-né qui fait référence à une notion d'honneur et de place. Mais un autre passage dans Galates au chapitre 4 nous parle du fait que, eh bien, nous devenons aussi enfants de Dieu et nous-mêmes nous sommes adoptés. Donc je lis ça dans Galates au chapitre 4 et c'est au verset 6. Puisque vous êtes bien des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Un esprit, l'esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Donc là aussi, on retrouve les personnes de la Trinité. Et cet esprit qui, dans notre cœur, nous fait crier Abba. Abba, littéralement, papa. Père. Personnellement, je trouve que c'est pas facile de dire papa à Dieu. Vous avez peut-être remarqué que c'est comme ça que j'ai prié ce matin. Je me suis fait violence pour le faire comme ça, parce que ça me vient pas naturellement. Et pourtant, dans mon histoire personnelle, ma relation à Dieu s'est construite autour de cette paternité. Mon père biologique est mort quand j'avais 10 ans, et ma relation à Dieu, je me suis tourné vers Dieu parce que Dieu a remplacé à ce père que j'avais perdu. Ma mère est morte quelques années après, et là aussi Dieu a été celui qui a comblé ce vide. Ma relation à Dieu est vraiment une relation où finalement Dieu s'est substitué à mes parents biologiques qui n'étaient plus là. Et malgré tout, c'est pour moi difficile d'appeler Dieu papa. J'ai déjà eu, peut-être vous aussi, eu l'occasion d'entendre des gens qui le faisaient facilement ou naturellement. Souvent, c'était des frères africains qui appelaient très naturellement Dieu papa. Et ça surprend, parce que pour moi, la façon naturelle de parler à Dieu, c'est de l'appeler Seigneur. C'est la façon, voilà, j'ai pas besoin de réfléchir ou de me poser des questions. Je l'appelle Seigneur naturellement. Et Seigneur, c'est une belle appellation. Hein, ça parle de soumission, ça parle de respect, ça parle d'amour aussi. Malgré tout, dans cette façon de parler à Dieu, Seigneur, c'est un terme qui introduit une distance. Dieu est notre roi. Mais un roi, c'est quelqu'un qui est quand même loin de soi. Alors que papa, c'est un terme qui nous parle de proximité. Papa, c'est celui qui vient te lire une histoire le soir, qui te prend dans ses bras, il y a une relation d'intimité dans ce terme-là. Et je trouve que c'est pas si facile que ça de laisser Dieu devenir aussi intime, parce que ça remet des choses en question. Alors évidemment, on a tous une relation différente avec notre père biologique, une relation qui a pu être conflictuelle, qui a pu être difficile. Il y a sûrement des choses qui sont pas réglées dans cette relation à notre père biologique. Et pourtant, Dieu met dans nos cœurs un esprit qui nous pousse à l'appeler papa. Parce que Dieu veut cette relation de proximité, comme il avait cette relation de proximité avec Jésus. Cette même relation de proximité où Dieu justement connaît qui nous sommes. Où Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut nous envoyer. Il veut nous donner ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission qu'il a pour nous. Et il le fait en étant proche de nous, en sachant ce qui nous manque, en sachant nos faiblesses et nos chutes. Et il veut que nous puissions lui faire confiance au point d'accepter qu'il voit nos fragilités et nos manques. Et il veut que, justement, nous puissions arriver à l'appeler papa. Peut-être en arrivant à dépasser tout ce que notre père, selon la chair, a pas pu être et accomplir. Quand on a partagé, donc vendredi, il y a 15 jours, justement, sur cette notion de paternité, il y a plusieurs personnes on dit combien pour elles c'était difficile d'appeler Dieu papa, que c'était pas quelque chose qui leur venait naturellement, hein, parce qu'elles projetaient dans Dieu le Père un Père parfait, un Père idéal. Je suis pas sûr que ce soit la bonne façon de voir Dieu. Je pense que dans la relation qui est décrite ici, c'est la relation entre le Père et le Fils, c'est cette relation-là qui est idéale. Cette relation où l'amour du Père répond à l'amour du Fils, où la confiance du Fils répond à la volonté de glorifier et de déléguer du Père. Cette relation est idéale. C'est cette relation que Dieu veut construire avec nous. Donc je pense que c'est un effort qui peut être constructif pour nous d'essayer de réfléchir et de rentrer dans une relation à Dieu où cette dimension de la paternité est vraiment présente. Et c'est vrai que notre exemple, celui vers qui nous identifions, c'est Jésus. C'est lui qui est notre exemple de notre modèle d'humanité. C'est vers sa stature que nous cherchons à grandir et c'est ce que nous essayons d'atteindre. La maturité, c'est de ressembler à Christ et d'accomplir la même chose que, ou disons de manifester ce qu'il a été sur terre. Pourtant, le texte nous dit que le Fils conduit au Père. Le Fils révèle le Père et le Fils accomplit ce que le Père fait. Et donc on voit bien que dans cette recherche de la maturité, il y a cette identification au Père qui est au bout, qui en fait partie. Et donc nous aussi, nous sommes appelés à vivre cette paternité, cette façon d'interagir avec les autres où nous donnons. Dans tout ce passage-là, on voit le Père, sa caractéristique première, c'est de donner. Le Père, il donne, il transmet, il délègue, il met en avant, il aide à grandir, c'est lui qui fait pousser. Et nous avons à rentrer dans cette dimension de notre marche avec Dieu. Et alors vous avez peut-être entendu parler de cette semaine, disons dans les semaines qui précèdent, on a beaucoup entendu parler ça s'appelle comme ça, l'écriture inclusive, d'accord, tous les mouvements qui réfléchissent à la place de la femme dans la société. Donc vous avez peut-être entendu parler de cette façon d'écrire, hein, où on rajoute des tirets et des e pour féminiser la langue et la façon d'écrire, pour donner plus de place aux femmes dans la société, alors que la tendance c'est de les mettre de côté. Et ça m'a fait quand même un peu réfléchir moi aussi. Alors bon, au-delà de ce qu'on peut penser de l'écriture inclusive. Mais ça m'a fait quand même réfléchir un petit peu quand on réfléchit à cette idée de s'identifier avec le Père, c'est que pour une femme, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que le Père est une image masculine. Et en même temps, alors c'est une réflexion qui m'appartient et je vous la partage pour vous inciter à peut-être y réfléchir un peu de votre côté. Je pense que il faut se garder de pousser cette image de la masculinité de Dieu trop loin, parce que Dieu est au-delà, évidemment, au-delà d'une nature homme ou femme. Et donc, quand on réfléchit à Dieu et qu'on l'identifie trop fortement à une figure masculine, je pense qu'on peut se tromper ou projeter trop de choses. Et en réfléchissant à cette caractéristique, donc à ce que j'ai décrit de la personne et de ce que fait le père, je me suis rendu compte que la mère partage beaucoup de ces caractéristiques, le fait de donner, le fait de donner de la sécurité, le fait d'envoyer, le fait d'aimer, évidemment. Donc dans toutes ces caractéristiques-là, on retrouve la personne de Dieu, et finalement, homme ou femme, nous pouvons nous identifier et entrer dans cette identification avec Dieu. Donc je vous laisse réfléchir à cette notion-là et en faire ce que vous en pourrez. Bon, je vais m'arrêter là en concluant. Les philosophes nous disent connais-toi toi-même. La Bible nous dit les choses différemment. La Bible, elle nous dit connais Dieu pour te connaître toi-même. Et j'espère que c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire ce matin. Et je voudrais vraiment vous encourager à réfléchir à cette dimension de la parentalité de Dieu, de ce que ça implique dans notre relation dans notre relation avec lui. Je vous encourage à essayer de l'appeler papa dans vos prières, pour voir qu'est-ce que ça change dans le regard que vous avez sur lui et dans la façon dont vous voyez du coup par rapport à lui. Je vous encourage à essayer d'expérimenter justement cette libération qui découle de cette relation, et puis expérimenter aussi le mouvement que le fait de savoir que nous sommes enfants de Dieu et que ce Dieu nous délègue tellement de choses, il a tellement de projets pour nous, il veut tellement nous faire grandir. Combien cette notion là me pousse à avancer et à me mettre en marche. Merci à tous.